culture. La curiosité sous toutes ses coutures. 17h-17h30, un mercredi sur deux, et le dimanche à 11h, sur les bonnes ondes de Radio Campus Angers.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de Franche Culture, l'Anjou sous toutes ses coutures. Direction la Vendée militaire, alors rarement un fait historique aussi bref, 3 ans de 1793 à 1796 aura autant contribué à façonner des identités, des enthousiasmes, des rejets, à rendre un territoire aussi fier. Plus de 2 siècles après les guerres de Vendée, il reste de multiples traces sur son territoire et surtout, une communauté soudée, travailleuse, industrieuse et qui résiste plus longtemps que les autres à l'exode rural. Est-ce vraiment grâce, ou je dirais plutôt à cause de ce souvenir douloureux? Pour nous aider à réfléchir, 2 invités, Angéline Bourget, médiatrice des musées de Cholet, et Anne-Roland Boulestreau, professeure d'histoire moderne à l'UCO. Alors avec moi pour animer cette émission, Bénédicte, bonjour.
Bonjour. Bonjour. Bonjour Bénédicte.
Et c'est parti maintenant pour 30 minutes ensemble.
Franche Culture. La curiosité sous toutes ses coutures.
Alors Bénédicte, un sujet bien grave pour démarrer l'année, rafraîchissez-nous les idées et rappelez-nous les grandes lignes de la guerre de Vendée.
Je vais botter en touche. Anne-Roland Boulestreau, vous êtes aussi responsable du master Conflictualité et médiation à l'UCO. Et vous avez écrit de nombreux ouvrages sur la guerre de Vendée, notamment Punir et détruire en Vendée militaire, La justice d'exception en guerre civile, ou encore Guerre et paix en Vendée, 1793-1796. Avant de voir les traces que cette guerre a laissées dans le paysage, est-ce que vous pouvez nous retracer le contexte de façon concise? Quelles sont les causes et le déroulement de cette guerre?
Alors, en très peu de temps, la guerre de Vendée commence en mars 1793, avant tout pour des questions liées à la religion, puisqu'il y a des grandes réformes religieuses avec la constitution civile du clergé, et les communautés rurales, pas simplement dans l'Ouest d'ailleurs, mais dans toute la France, s'opposent à cette constitution civile du clergé. Sauf que, en Vendée, militaire, dans les Mouges, en particulier dans le Choletais, eh bien des petites bandes vont se constituer et la République ne va pas comprendre ce qui se passe. Ce territoire-là, pendant quelques semaines, va être finalement considéré comme un territoire d'insurrection. Et puis la guerre civile, petit à petit, ce terme-là va apparaître à partir de l'été 1793. Et se déploie à ce moment-là une autre guerre, bien plus violente, bien plus sanglante encore, pour les Vendéens. Les colonnes infernales, en janvier 1794. La pacification que la République tente à partir du printemps 1794. Elle signe des traités, le traité de la Jaunais et le traité de Saint-Florent en 1795. Mais la guerre reprend, puisque la guerre civile ne liquide pas en quelques mois tant de difficultés, en particulier religieuses. Il faut vraiment la mort des chefs, des principaux chefs encore en vie, qui sont Stofflet d'un côté, Charette de l'autre, en 1796, pour que la Vendée bascule dans une autre histoire, un long processus de reconstruction. Et c'est sans doute ce dont on va parler.
Voilà, c'est absolument le sujet d'aujourd'hui. Les traces de cette guerre sont physiques, 30% de la population vendéenne a été décimée. Mais est-ce que c'est cette guerre qui a façonné les identités des Vendéens, ou bien est-ce que c'est la mentalité des Vendéens qui a fait que cette guerre était telle qu'on la décrit aujourd'hui? De la poule ou de l'œuf?
Grande question. En fait, c'est un historien qui s'appelle Jean-Clément Martin qui pense que la Vendée est née après les guerres de Vendée. C'est-à-dire, voilà un territoire, le Choletais, les Mauges, le département de Vendée, peu connu par la Convention nationale. Et c'est véritablement cette guerre civile qui aurait donné une espèce de coloration particulière où les érudits du 19e siècle et encore les historiens du 20e siècle vont finalement lire la guerre de Vendée à l'aune de cette reconstruction. D'où votre émission qui est importante, parce qu'on voit voit bien que le mot-clé, c'est cette charnière. Une fois qu'on a terminé une guerre civile, comment on peut véritablement sortir de la discorde? Ça, c'est une question essentielle, une question politique essentielle.
Ben oui. Alors, il y a cette question politique, mais aussi une question géographique. Est-ce que le paysage de bocage de cette région a été vraiment très important?
Ah oui, alors le bocage va entraîner une nouvelle guerre. Les armées républicaines ne connaissent pas cette nouvelle guerre. Ça s'appelle la Petite Guerre. Et cette Petite Guerre, elle va donner un autre nom par l'Espagne, qui est la guérilla. C'est-à-dire que le bocage, les républicains, d'abord ils partent en campagne, ils n'ont même pas de carte, ils ne savent même pas où ils sont. Ils n'ont aucune visibilité sur ce territoire-là, puisque ce bocage, ça leur donne l'impression, ils l'écrivent d'ailleurs, hein, certains soldats, ça leur donne l'impression de rentrer dans une forêt, plus que dans un pays de bocage, d'où leur importance accordée au clocher ou au château. Ça peut paraître bizarre, mais c'est presque ça qui va brûler les derniers, et les châteaux et les clochers, parce que c'est le seul point de repère qu'ils ont dans un espèce de paysage où ils se perdent, et puis surtout un paysage qui favorise les embuscades. Et Angéline peut nous en parler, mais on a des tableaux qui représentent justement ce côté anxiogène du paysage que les républicains vont associer finalement aux sauvages. Les Vendéens sont finalement des brigands qui mènent une guerre qui n'est pas à la régulière, et c'est un pays qui est absolument impossible à investir. Vous voyez la lecture que l'on fait du bocage.
Mais ce paysage de bocage, il est vrai dans toute la Vendée militaire?
Non. En réalité, les républicains vont associer le bocage à la guerre de Vendée. Mais si on prend, par exemple, les zones où Charette combat, et combat avec efficacité, ne sont pas du tout des zones de bocage. C'est plutôt des marais. Ça peut être aussi des forêts, là, directement. Ça peut être aussi, tout simplement, des banlieues de ville. Rappelons-nous quand même que Charette est un des chefs, le seul d'ailleurs je pense, capable de prendre des camps républicains qui sont dans la banlieue de Nantes. Donc on est loin d'une simple guerre de bocage.
C'est beaucoup plus complexe, évidemment.
C'est plus complexe, mais évidemment, pour que les républicains se retrouvent à la fois dans ce labyrinthe géographique et ce labyrinthe politique, on va simplifier au maximum la guerre de Vendée, et on va la ramener à un pays de bocage ensauvagé.
Quand je suis arrivée dans cette région, j'ai été très étonnée par le dynamisme économique. On a vraiment l'impression d'avoir des usines à la campagne, un tissu industriel très fort, une mentalité très particulière de gens qui se serrent les coudes. Quel est le rapport avec la guerre de Vendée?
Il est direct. Et pour cela, il y a une loi qui est très intéressante. Je trouve que les historiens l'ont laissée de côté, et je vais m'y atteler. Napoléon va proposer une reconstruction, en partie financée par l'État, à condition que les fermiers ou que les métayers qui ont perdu leur bâtiment de ferme, déclarent, hein, fasse une déclaration très nette, et l'État s'engage à ce moment-là à verser au moins un quart de la somme de reconstruction. Eh bien, ce qui m'a étonnée sur une loi comme ça, qui est presque première, c'est une loi d'assurance, finalement. Les Vendéens ne vont pas prendre cette loi, tout simplement parce que pour eux, ce qui vient de l'État n'est pas acceptable tel que Napoléon le voulait. Tout ce qui vient de l'extérieur est rediscuté à chaque fois dans les communautés au début du 19e siècle, ce qui n'était pas le cas à la fin du 18e.
Ça veut dire qu'ils vont compter que sur leur propre force?
Sur leur propre force, la famille, le réseau. Là, j'ai fait un article, je viens de le finir, sur le voisinage. Le voisinage et l'amitié et le réseau. Et c'est absolument impressionnant, parce que vous voyez qu'effectivement, on reconstruit le pays en passant par les voisins, par l'appui des voisins. Et quand on a besoin de l'État pour des papiers, par exemple, simplement de filiation, pour prouver qu'on est le fils d'un tel, ah bah oui, mais le fils d'un tel, un tel est mort, eh bien, on va aller chercher les voisins, on va les convoquer devant la justice de paix, c'est-à-dire devant l'État, mais on le fait uniquement par intérêt premier. C'est-à-dire, on a besoin de ce papier. Une fois que ce papier est fait, terminé.
On ne compte que sur soi-même.
On ne compte que sur soi-même, que sur les communautés. Sauf qu'il y a un petit problème, ou plutôt une autre force qu'on oublie trop souvent en Vendée, c'est que la société, elle n'est pas monolithique. C'est pas un bloc. Et vous avez des patriotes qui continuent d'être en Vendée une fois la guerre de Vendée terminée, ou qui reviennent. Et donc vous avez tout ce petit monde qui coexiste le plus tranquillement possible pour reconstruire. Et c'est cette coexistence qui, me semble-t-il, est aussi une des particularités de la Vendée.
Vous voulez dire qu'avant d'être patriotes, ils sont vendéens?
Oui, exactement. C'est-à-dire, pour eux, leur intérêt, c'est quoi? C'est leur intérêt de reconstruire. De reconstruire ça, soit leur ferme, soit de créer aussi des entreprises à la campagne dont on parlait. Alors, par intérêt, tout le monde, vendéen comme patriote, jusqu'à un certain point, bien entendu, tout le monde va contribuer à la reconstruction du pays.
Et est-ce qu'on a d'autres exemples en France aussi marquants?
C'est une bonne question. Non, pas aussi marquant. D'abord parce que, rappelons-le, hein, la guerre civile en Vendée va créer un traumatisme durable, à tel point que d'abord c'est au moins 200 000 morts à peu près, hein, rien que dans cette guerre civile. Donc c'est des familles qui vont être toutes meurtries par les guerres de Vendée, qu'elles soient patriotes ou pas, hein, d'ailleurs, hein, vendéennes. Et on ne connaît pas de régions, même si dans le sud de la France il va y avoir des insurrections très fortes, on ne connaît pas de régions ayant subi une telle guerre civile au moment de la Révolution française. Il faut remonter vraiment aux guerres de religion pour voir un tel massacre.
Je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à Napoléon. Alors, est-ce qu'il y a eu des dédommagements financiers après cette guerre au final?
Alors, c'est plutôt la Restauration, c'est plutôt Louis XVIII et surtout Charles X qui vont récompenser des Vendéens, enfin ceux qu'on considérait comme être Vendéens. Alors, il fallait faire tout un dossier, on les a, hein, c'est absolument fantastique comme source. C'est des milliers de sources qui sont aux archives départementales et qu'on peut d'ailleurs consulter sur Internet. Et là, ils vont donner de l'argent à des familles, ils vont identifier des... Et puis, Napoléon va effectivement essayer de contribuer à la reconstruction industrielle.
Alors expliquez, développez un petit peu justement, parce que ça c'est l'impact direct
de la guerre de Vendée. Guerre, oui. Mais par exemple, les Choletais, ils ont une richesse, un passé de manufacture de textiles, entre autres, hein, les fameuses toiles, les mouchoirs de Cholet, on en reparlera, mais les mouchoirs de Cholet. Et voilà que les ouvriers soit sont partis à la guerre, soit sont partis se réfugier, et on va créer des manufactures qui sont par exemple au Mans, à Tours, et il y a un savoir-faire qui est en train de s'exporter. Donc le gros problème de Cholet, c'est de reconstituer le plus vite possible les manufactures avant que les manufactures qui se sont exportées dans les départements voisins se multiplient et surtout grossissent. Alors, on va créer des fonds et une société qu'on appelle la Société des 11, où finalement, on va bénéficier du réseau, là cette fois politique, d'État jusqu'aux plus hautes instances, pour faire revenir les ouvriers, pour reconstituer les manufactures le plus vite possible, parce que c'est la richesse de la région.
Et donc aujourd'hui, en fait, ce sont les arrière-arrière-petits-enfants qui sont toujours là et détenteurs de ce dynamisme et de ce besoin de s'appuyer uniquement les uns sur les autres.
Pas seulement, mais effectivement, au XIXe siècle, on voit bien, on les suit très très facilement. Finalement, c'est quoi? C'est à trois générations de la guerre de Vendée. Donc, on a suffisamment de sources, on a énormément d'écrits. Donc, pour un historien, c'est un sujet sans fin. Et on voit bien, effectivement, le survivant qui transmet à son fils le patrimoine, etc. Parfois, le fils va développer ce patrimoine pour ce qui est des manufactures, pour ce qui est aussi de la grande richesse des Mauges, que sont les bœufs gras, l'élevage bovin, qui est en plein essor au XIXe siècle et qui va contribuer à la richesse de nouveau de la région. On croit toujours que le Choletais au XVIIIe siècle était une région pauvre, absolument pas. Déjà, c'est une région qui était extrêmement ouverte et riche par ce commerce des bovins et par les manufactures. Et on voit au XIXe siècle, on va accentuer encore ce phénomène. On va profiter des routes, du commerce. On va faire feu de tout bois pour la reconstruction.
En fait, quand on disait de l'œuf ou de la poule, on partait déjà d'une région riche et de gens industrieux et travailleurs.
Oui. Oui.
Avant même la guerre.
Et la guerre
n'a fait qu'augmenter que...
Après la guerre, effectivement. L'après-guerre va être le moment où, justement, on va reconstruire le pays. De quelle manière? En prenant les forces de la fin du XVIIIe siècle, en les augmentant avec cette France du XIXe siècle qui est en train de changer. Et souvent, d'ailleurs, quand on est hostile à la guerre de Vendée, les républicains qui sont hostiles à la guerre de Vendée du XIXe siècle vont exagérer le côté arriéré de la région, alors que c'est absolument... fou. En fait, on est devant une espèce de millefeuille avec la guerre de Vendée, si je peux prendre cette métaphore du gâteau. Parce que vous avez les sources, vous avez la réalité d'un pays, la reconstruction, la relecture en fonction des pôles d'opinion. Si vous êtes pro-vendéen, vous allez exagérer le côté territoire fermé, mais préservé de la corruption du monde extérieur, absolument faux. Et puis, si vous êtes contre la Vendée et la guerre de Vendée, vous allez montrer, bah oui, que c'est un pays arriéré et que c'était finalement des gens fanatiques et des gens qui étaient grégaires. Vous voyez comment on retricote l'histoire.
Alors cette relecture justement des guerres de Vendée, des Mauges, on va continuer sur cette touche-là, juste après cette musique de Gaël Faye qui chante la guerre au Rwanda et dont vous revenez d'ailleurs, Anne.
Ah, d'accord. Si je suis trop...
Gatoyi, gahugu kaniniya, warapfunywe ni wapfuye, waragowe ni wagoka, gahugu gatoyi.
Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque. Loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez, mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début. Mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guissény. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapunwe ni wapuye, waragowe ni wagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya.
Petit bout d'Afrique perché en altitude, je doute de mes amours, tu resteras ma certitude, réputation recouverte d'un linceul. Petit pays, pendant 3 mois, tout le monde t'a laissé seul.
Franche culture. La curiosité sous toutes ses coutures.
On parle guerre de Vendée sur Franche Culture. 230 ans après, c'est toujours aussi vif dans les esprits. Alors, petite question polémique à Anne ou à Angéline. Qu'est-ce que vous pensez du mot génocide?
Alors là, évidemment. Génocide, c'est un mot qui va énormément marquer. La guerre de Vendée, c'est un mot qui est clivant. C'est-à-dire, vous l'utilisez, vous êtes catalogué. Vous ne l'utilisez pas, vous êtes catalogué. Donc, c'est terrible parce que quand vous êtes historienne, comme moi, passionnée par les sources, par les archives, ça n'est pas mon propos, ça n'est pas mon problème. Moi, ce que j'ai envie de comprendre, c'est comment tu peux reconstruire après un tel drame. Ou d'où on vient? Comment on peut expliquer une guerre civile? Quels sont les mécanismes qui expliquent une telle haine du voisin, une telle haine vis-à-vis d'une partie du territoire? Et alors, je vais peut-être vous choquer, mais quand c'est un concept comme ça, qui est aussi clivant, ben, faut pas l'utiliser. Voilà. Et il y a d'autres façons de montrer ce drame vendéen.
Quel est le mot que vous utilisez pour qualifier justement
cette guerre? Je me suis beaucoup intéressée aux colonnes infernales. Ça a été mon premier livre. Et en conclusion, j'ai dit, ben, en définitive, et par défaut, j'utilise massacre. Et j'utilise guerre civile et je montre que c'est une guerre fratricide. C'est véritablement moi qui ai mis en évidence cette idée de guerre fratricide parce que c'est le frère qui tue le frère.
Dans les guerres civiles. Angéline Bourget, vous êtes médiatrice au Musée d'art et d'histoire de Cholet. Oui. 80% du musée est consacré à la guerre de Vendée. Est-ce que vous pouvez nous présenter le parcours de ce musée ?
Alors, le musée d'art d'histoire est déjà divisé en deux parties. Il y a une galerie d'art où là, on a des tableaux du XVIe au XXIe siècle qui ne parlent pas du tout de la guerre de Vendée. Et la partie histoire, la galerie d'histoire, va raconter l'histoire de Cholet, en partant de l'Antiquité jusqu'au XXe siècle. Et effectivement, dans cette galerie d'histoire, on va consacrer 80% de l'espace à la partie guerre de Vendée, à la contre-révolution entre 1793 et 1796. Ce parcours, il commence avec la présentation du contexte et pourquoi les guerres se déclenchent. Donc on va parler de la Révolution française, de Louis XVI, et puis des trois raisons qui vont déclencher les guerres de Vendée. Et après, le parcours, il est très chronologique, hein, avec l'année 93, qui est, on va dire, l'année des batailles, l'année 94, avec plutôt l'année de
De la guerre civile, des colonnes infernales.
Oui, des colonnes infernales, la répression, et puis l'année 95, les accords de paix, les derniers instants, début 96.
Dans ce musée, quand on l'a visité avec vous, on avait tout à fait marqué par fake news, détournement de vérité, publicité mensongère, la présentation de la guerre au XIXe siècle.
C'est ça, effectivement, voilà. En fait, une grande partie de nos collections sont des œuvres d'art, des tableaux qui ont été réalisés au XIXe siècle, donc bien après les événements, et les artistes vont s'inspirer d'écrits ou de faits qui ne sont pas forcément des faits historiques attestés, et ils vont interpréter aussi cette période-là pour eux, puisque au XIXe siècle, ils vont aussi défendre leurs valeurs politiques à travers leurs œuvres. Donc en fait, la guerre de Vendée était un prétexte pour défendre le côté royaliste ou le côté républicain selon les artistes. Et donc beaucoup de nos œuvres, effectivement, sont très tardives par rapport aux événements et ont un parti pris fort la plupart du temps.
Donnez des exemples.
Alors effectivement, le tableau le plus important dans notre galerie, qui est le plus grand du musée, qui s'appelle « Le massacre de Machecoul » par François Flamingue, a été peint en 1884. Donc vous voyez qu'on est 90 ans après les événements. Et il y a un parti pris de l'artiste vraiment fort dans ce tableau pour défendre le côté républicain. Il va montrer les royalistes, les Vendéens, comme des êtres qui vont en spectacle devant des gens qui ont été massacrés. Ce tableau, il fait 5 mètres par 6 mètres, donc il est très impressionnant. Il interroge beaucoup tous nos visiteurs, et donc nous, on est là aussi pour expliquer le contexte de la guerre de Vendée, des faits en eux-mêmes, et aussi du contexte quand le tableau a été réalisé, et pourquoi, et parler de l'artiste également à la fin du XIXe siècle.
Et à l'inverse, les tableaux des généraux ?
Alors les tableaux, la partie importante dans notre galerie d'histoire, c'est la salle des généraux vendéens, donc où on a la collection de portraits des généraux qui a été commandée par Louis XVIII en 1817 pour son château de Saint-Cloud, qui sont aujourd'hui conservés au musée. Et là, les tableaux sont réalisés entre 1817 et 1824 à peu près, hein, une dizaine d'années. Donc là, on est plus proche des faits, même si on est dans une héroïsation complète de ces personnages et une idéalisation. On n'est absolument pas certain de leur vrai visage, de leur vrai physique, mais c'est aujourd'hui des tableaux qui sont beaucoup, beaucoup utilisés dans tout ce qui est illustration sur les guerres de Vendée.
Oui, ils sont tous beaux, ils sont
tous très beaux, tous très jeunes, tous très bien habillés. Alors, ils sont un petit peu blessés quand même, ils sont très combatifs, ils vont être là pour mener les troupes au combat, mais on est dans une idéalisation, enfin une réalisation
très
posthume.
Héroïque.
Tout à fait.
Par ailleurs, on a parlé des traces dans les mentalités, il y a aussi évidemment des traces dans les paysages, dans le paysage autour de Cholet.
Oui, et puis Anne le disait tout à l'heure, on a des tableaux qui représentent ce paysage de bocage et ces embuscades dans notre galerie. Et puis autour de Cholet, on a toujours des lieux qui témoignent de cette période-là. Et le service des musées avec l'office de tourisme du Choletais a réalisé il y a 2-3 ans un carnet de route sur ce qui restait dans le Choletais de ces guerres de Vendée. Et on parle de ces chemins creux, de ces espaces où les Vendéens circulaient et où ils pouvaient surprendre les armées républicaines. Et il y en a un qui est peut-être plus emblématique. C'est à Bégrel-en-Mauge, donc c'est vraiment juste à côté de Cholet, où là, effectivement, on peut encore aujourd'hui passer dans ce chemin et on a l'impression d'y être.
Il y a d'ailleurs à ce propos une association qui s'appelle Balade historique et gourmande dans les Mauges, dont je suis l'heureuse présidente, mais c'est pas du tout moi qui anime ça. C'est-à-dire, dans le patrimoine, vous avez des associations maugeoises qui vont mettre en valeur ce type de paysage ou bien d'œuvre, mais à l'échelle d'une commune. Et donc, vous avez des passionnés qui vont emmener des randonneurs, justement, dans ces chemins creux, sur des champs de bataille dont on a quelques traces, ou bien des traces fantasmées. Mais c'est super intéressant, parce que là encore, vous êtes dans cette métaphore du millefeuille, c'est-à-dire vous avez la réalité, puis vous soulevez, vous allez de couche en couche retrouver, finalement, cette guerre de Vendée.
Quand vous parlez d'œuvres, vous parlez de quoi, concrètement ?
Par exemple, ça peut être des vitraux, ça peut être des églises, ça peut être du bâti, ça peut être aussi des maisons, ça peut être des croix missionnaires, ça peut être des lieux de massacre, et donc ce qu'on appelle les cimetières des martyrs. Vous en avez disséminé sur tout le territoire vendéen. Donc c'est une façon actuelle de voir la résonance des guerres de Vendée dans le paysage.
Et on peut se procurer ce petit carnet de route.
Alors ce petit carnet de route, on peut l'avoir à la boutique des deux musées de Cholet ou à l'office de tourisme du Choletais. Et c'est vraiment l'idée, c'est assez simple, c'est vraiment accessible à tout le monde et de découvrir les lieux vraiment, vraiment comme on les voit aujourd'hui et de façon très simple.
Angéline Bourget et Anne Roland-Boulestreau, vous avez des relations depuis une dizaine d'années, il me semble. Expliquez-nous un peu.
Anne Roland emmène ses étudiants en L3 tous les ans visiter le musée d'art et d'histoire de Cholet. Et c'est avec plaisir que moi et mes collègues médiatrices, on les accueille pour leur faire découvrir cette galerie d'histoire. Et donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, toutes les œuvres qui ont été réalisées bien après les événements. Même si nous, on a quelques objets contemporains des faits, qui sont plutôt des armes ou des documents d'archives, des papiers. Voilà, toute la représentation iconographique date d'après. Et c'est toujours un plaisir de recevoir les étudiants pour avoir eux, leur montrer ce que l'on a fait de ces événements-là et avoir aussi leur vision à eux d'historiens et d'étudiants.
Anne Roland-Boulestreau, tout à l'heure vous parliez des survivants, de la résilience, mais aussi vous disiez, c'est super ce sujet des retombées, parce qu'aujourd'hui vous travaillez sur un livre.
Oui, on a un projet avec Mauche Communauté, Olivier Gabory, un projet sur justement ce que la guerre de Vendée vous fait là, actuellement, et a fait à votre famille. Quels souvenirs, quelles anecdotes autour de la guerre de Vendée, quel patrimoine vous voulez mettre en œuvre. Donc, il va y avoir une enquête, c'est tout juste frais, il y aura une enquête auprès des Maugeois, auprès de ceux qui connaissent ou pas, d'ailleurs. Ce qui m'intéresse aussi, c'est ça, dans cette enquête, c'est est-ce que c'est connu encore auprès des jeunes, auprès de qui, de quel village. Vous le disiez tout à l'heure, c'est à la fois un sujet, enfin c'est clivant. Certains, à l'issue de mes conférences, me disaient mais moi, la Vendée, je ne la supportais plus, la Vendée militaire, je ne la supportais plus. Et j'ai mis 15 000 km entre moi et cette histoire. Donc il y a encore un traumatisme, alors qu'on est en 2025, on pourrait croire que finalement, voilà. Mais c'est très peu, finalement, 250 ans. Et c'est ce qui va nous intéresser, les traces et écrire un livre là-dessus pour les Maugeois.
Est-ce que vous ne croyez pas que le Puy du Fou a fait beaucoup ?
Ah oui, je pense que la Vendée, le département de Vendée, finalement, est associé au Puy du Fou, est associé à la famille de Villiers. Et il me semble que dans le Choletais, dans les Mauges, c'est une autre façon de s'emparer de la guerre de Vendée. Je vous parlais des balades historiques et gourmandes. C'est des choses à la fois très individuelles, liées à un village, mais en communauté. C'est-à-dire, on se retrouve, on est une vingtaine de villages avec le soin de mettre en valeur ce patrimoine très local. C'est très différent comme échelle. C'est beaucoup plus individualisé, personnalisé, investi, engagé dans les Mauges. Si les Vendéens m'entendent, ils ne vont pas être contents. Mais c'est une autre façon de s'emparer. Le Puy du Fou, c'est une autre façon de commémorer la guerre de Vendée, de la célébrer. Il me semble que dans les Mauges, c'est une vraie réflexion, en fait. Une vraie réflexion sur ce territoire.
Anne Roland-Boulestreau, vous êtes vous-même issue de cette région ?
Oui, moi, j'ai habité Sainte-Christine en Mauges. Voilà, à côté du Pas en Mauges. J'ai énormément d'amis dans les Mauges, dans le Choletais.
Très bien. Et vous-même, Angéline ?
Moi, je suis Choletaise.
Choletaise. Voilà. Bien, moi, mon grand-père était de Montrevaux.
Ah, donc, alors, ben voilà. Je connais parfaitement.
Les Mauges également. Eh bien, écoutez, Anne Roland-Boulestreau et puis Angéline Bourget, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur ce sujet profond et bien ancré, en tout cas. Voilà. Donc, on envoie le petit générique. C'est la fin de ce Franche Culture. 30 minutes de culture tous azimuts en Anjou. Merci à Sylvain pour la technique. Retrouvez-nous un mercredi sur deux en direct à 17h, le dimanche à 11h, bien sûr en podcast. Et n'oubliez pas, la curiosité se partage sur les réseaux sans modération. Très belle semaine à tous.
Une émission à retrouver sur le www.radiocampusangers.com.